autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, amis auditeurs libres d'esprit, merci d'être à l'écoute au milieu de tant de violence et de barbarie. Nous sommes en deuil, cela fait du bien de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour résister à notre petite manière. On continue à nous poser des questions, toutes les questions possibles. Alors précisément qu'on aimerait tant pouvoir arrêter le temps, revenir en arrière, nous vous proposons, ironie du sort, de nous interroger sur le voyage dans le temps. Est-il possible de remonter dans le passé ou de se rendre dans le futur? La téléportation quantique est-elle envisageable? Pourrait-on traverser les trous de ver de l'espace ou remonter le temps grâce à l'antimatière? Autant de questions sidérales et sidérantes soulevées par les auteurs de science-fiction et relevées par les physiciens comme notre invité Gabriel Chardin, spécialiste de la matière cachée de l'univers. Autour de la question, peut-on voyager dans le temps? Bienvenue ensemble, ici et maintenant. Bonjour Gabriel Chardin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour un voyage dans l'espace et dans le temps qui nous promet quelques surprises. Vous êtes physicien, médaille d'argent du CNRS pour vos travaux de recherche sur la matière cachée de l'univers. Après avoir été directeur adjoint scientifique pour les astroparticules et les neutrinos, vous êtes aujourd'hui président du comité des très grands équipements scientifiques et grandes infrastructures du CNRS. Et vous venez de publier au Pommier, dans la collection Les grandes petites pommes du savoir, une version augmentée d'un petit livre qui a connu un joli succès et de nombreuses traductions. Peut-on voyager dans le temps? Pourrait-on échapper à son destin, revenir en arrière, infléchir le cours du temps? C'est une question que le physicien que vous êtes, Gabriel Chardin, s'est d'abord posée dans des circonstances particulièrement pénibles. Difficile, même d'en parler.
Oui, assez difficile d'en parler. En fait, ça, l'actualité télescope un peu.
Vous avez vous-même été retenu en otage lors d'un détournement d'avion en août 90.
En août 90, effectivement, je raconte non pas mon histoire, mais l'histoire d'une personne que j'ai connue et à qui j'ai partagé une captivité pendant un mois.
Une jeune femme qui était à côté de vous dans cet avion.
Qui n'était pas à côté de moi, mais qui était à quelques rangs de moi et qui était assis à côté d'un homme qui lui a dit que si elle sortait aujourd'hui à l'instant de l'avion, elle pourrait échapper à ce qu'on lui a pas dit, mais disons que l'avion n'arriverait jamais à sa destination.
On lui a dit, quelqu'un lui a dit ça.
Et comme ses bagages étaient déjà dans l'avion et qu'on attendait depuis 2 heures, elle est restée dans l'avion et comme tous les passagers, les 340 passagers de l'avion, elle s'est retrouvée dans une prise d'otage qui a duré plus ou moins longtemps suivant les passagers. Au Koweït d'abord, en Irak pour la plupart des autres. Moi je suis resté 3 mois et les Anglais et les Américains sont restés prisonniers à peu près 5 mois. Et l'obsession de cette personne et de nous tous, je pense, c'était peut-on échapper effectivement à son destin? Et surtout quand on voit que un tout petit branchement.
Oui, si elle avait écouté la personne qui lui a dit ne restez pas dans cet avion.
Elle aurait pu échapper. Elle était littéralement obsédée par ça. Et après, quand elle est revenue. En fait, donc l'histoire est compliquée. Peut-être on ne va pas la raconter ici. Mais disons, il y avait à la fois des gens de la famille de l'émir du Koweït qui étaient là et puis des membres des services spéciaux britanniques, comme la longue enquête l'a établi ensuite. Et donc très probablement quelqu'un des membres des services spéciaux, disons un peu, je sais pas, soit ému, soit voulant traiter amicalement avec cette personne, jeune femme assez jolie, lui avait dit « sortez de l'avion, l'avion n'arrivera jamais ». Quoi. Et donc, on voit que un cheveu, quelque chose, une décision infime permet ce branchement d'une histoire à l'autre, d'une histoire complètement normale à une histoire complètement dramatique.
Et on ne peut pas s'empêcher à ce moment-là de se dire, mais si on pouvait remonter le temps.
Voilà. Et qu'est-ce qui, dans la loi de la physique, permettrait d'échapper si on est déjà dans la situation, ou au contraire permettrait de choisir un chemin pour éviter les catastrophes futures ou revivre éventuellement des événements au contraire
Et vous avez, là, et vous avez eu le temps d'y réfléchir à toutes ces questions. Alors évidemment,
on a
en
eu
tant qu'homme,
d'y réfléchir. En tant que physicien. La question a été très bien lancée scientifiquement 2 ans avant par un physicien américain en particulier, parce qu'il était accompagné d'autres, un physicien qui s'appelle Kip Thorne, qui a servi de conseil scientifique pour un film dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est Interstellar.
On va en parler tout à l'heure, oui, absolument. Autour de la question, peut-on remonter le temps? On va faire appel à notre imagination et à vos connaissances scientifiques. En commençant par quelques pistes de réflexion sonore entre science et fiction avec le mix de Charles Pélabon.
Le temps. On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps pour visiter le passé lointain ou se retrouver plusieurs centaines d'années dans le futur.
Je me suis aperçu que pour parler du voyage dans le temps, eh bien, il fallait d'abord parler du temps.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe.
On a quelque chose qui s'écoule, ou dans lequel on s'écoule, qu'on appelle le temps.
Je crois que la meilleure définition du temps aujourd'hui est qu'il n'existe pas.
Il y en a fondamentalement deux du temps. Il y a celui de la physique qui est autour de nous, sur lequel on ne peut pas grand-chose. Et il y a le temps psychologique, celui que nous percevons, qui est extrêmement différent.
C'est à cause de notre incompréhension de ce qu'est le temps que nous avons tant de difficultés pour tenter d'unifier la relativité générale d'une part et la mécanique quantique d'autre part.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean?
Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.
Un trou de ver est un outil formidable pour construire une machine à voyager dans le temps.
L'observation de la formation des étoiles et des planètes nous permet de remonter le temps.
Ce qu'on appelle l'antimatière nous dit des choses sur la façon dont les phénomènes se déroulent dans le temps.
Si j'étais venu à la vitesse de la lumière, là, il aurait fallu que je tienne compte du fait que le temps qui s'écoule pour moi n'est pas le même.
La téléportation quantique consiste à pouvoir faire disparaître un objet d'ici pour le faire réapparaître là, et ceci sans qu'il existe entre eux.
En tant qu'archéologue, on voyage en permanence dans le temps.
Le cerveau, c'est un grand voyageur.
Je vais chercher dans mon passé des images et des mots.
La grande mission de la mémoire, c'est de se projeter dans le futur.
C'est donc vraisemblablement d'une compréhension plus fine de ce qu'est le temps, ou peut-être plutôt de ne ce qu'est pas le temps, qu'émergera une solution.
On trouvera un moyen. On a toujours trouvé.
Tic-tac, tic-tac, j'entends le chant. Tic-tac, tic-tac, le chant du temps.
Le champ du temps, on trouvera peut-être un moyen pour voyager dans le temps. Gabriel Chardin, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Flèche du Temps. Vous voulez sûrement réagir à tous les propos des physiciens, Relien Barreau notamment, qui nous disait, qui nous parlait du temps et de cette question du temps irrésolue.
Elle est encore irrésolue dans, à la fois donc, alors sur le voyage dans le temps, on verra qu'on a de très nombreux éléments de réponse. Il y a encore des interrogations. Sur la flèche du temps,
c'est-à-dire dans quel sens ça va ?
Voilà, dans quel sens ça va ? C'est peut-être une expression
oui.
impropre, mais disons...
Oui, on n'arrive pas à en parler, d'ailleurs. Le temps pose question.
La non-symétrie entre le passé, qui nous paraît complètement sûr, et le futur incertain. Alors que la physique ne voit essentiellement pas de différence entre le passé et le futur. Donc pourquoi y a-t-il dans la réalité une telle différence ?
Entre le passé et le futur, et autour de la question, peut-on voyager dans le temps ? Est-ce à dire que pour les physiciens, la question ne se pose pas tellement... est-ce que c'est plus compliqué d'aller dans le passé que d'aller dans le futur ? Au fond, la question ne se pose même pas comme ça.
Alors, disons, de toute façon, si l'on veut aller dans le futur, il n'y a pas tellement de problèmes. D'une part, on avance d'une seconde toutes les secondes.
Ah oui, on y va de toute façon, d'accord.
Si on veut aller des millions d'années dans le futur, il faut trouver un moyen de respecter l'objet, d'éviter qu'il meure, qu'il se dégrade, et de le congeler quelque part, ou de transporter son information. Peut-être on parlera tout à l'heure de la téléportation. Il y avait un des orateurs dans le montage sonore qui en parlait.
Ça serait possible si on... Enfin, pour le moment, oui, congeler, c'est une possibilité.
Congeler est certainement une possibilité.
Enfin, congeler du vivant. Alors, rendre vivant, c'est pas vraiment possible.
Si. Pour les petits organismes, ça ne pose pas tellement de problèmes. Des insectes, par exemple, on peut les congeler dans l'azote ou l'hélium liquide et les décongeler. Et ils peuvent revoler ou rebouger après. Ils sont peut-être pas en très très bon état.
Mais enfin, les insectes, ils peuvent voyager dans le futur.
Sur un objet aussi massif qu'un homme, 80 kilos ou je sais pas quelques on fait des dégâts énormes où on tue la personne quand on la refroidit pour le moment.
Oui, c'est un peu
mais il
n'y
a pas
ça.
De problème disons d'impossibilité.
D'accord, donc c'est pas impossible de voyager dans le futur, c'est pas impossible, c'est évidemment voilà. Complètement improbable, mais c'est pas impossible.
Oui, probablement qu'on trouvera des techniques relativement douces de d'endormissement dans un environnement froid qui feront qu'on pourra à nouveau, comme dans Interstellar ou dans des
films de science-fiction, voyager dans
Alien,
le futur,
etc. Voyager dans le futur ou être ralentir considérablement le métabolisme, le fonctionnement de l'être humain pour aller d'une certaine façon aussi loin que l'on veut aller dans le futur.
Dans le passé, par contre, c'est alors, nettement plus compliqué.
Dans le passé, on peut déjà analyser un petit peu ce qui se passe du point de vue des particules. C'est-à-dire que si on veut, en tant qu'individu, garder sa conscience et aller dans le passé, il faut quelque part faire un demi-tour dans l'espace-temps, non pas dans l'espace où on se retourne simplement et puis on va vers l'arrière par rapport à ce qui est aujourd'hui l'avant. Mais il faut, en plus, donc, dans l'espace temps, faire un demi-tour complet. Or, déjà aller à 45 degrés à peu près, hein, c'est aller à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire donc, d'une certaine façon, il faut dépasser la vitesse de la lumière. Or ça, comme le disait un orateur il y a quelques instants...
Pour le moment, dire, c'est pas possible. Donc là, c'est...
Disons, il faut arriver à contourner le problème, soit par l'intermédiaire d'un trou noir ou de la gravitation, en utilisant la courbure de l'espace-temps. Donc on le voit dans certains films de science-fiction, on pourra reparler de la véracité scientifique ou pas de Interstellar, soit trouver quelque chose qui permette de dépasser la vitesse de la lumière ou de la contourner complètement dans le sens où aller à la vitesse de la lumière, ça demande une énergie infinie.
Pour donc une énergie infinie pour dépasser la vitesse de la lumière autour de la
énergie infinie, on ne sait pas faire.
On ne sait pas faire. Voilà, hein.
Parce que même la Terre a une énergie finie, même l'univers visible a dans sa matière une énergie finie.
Donc on ne sait pas faire hein, pour le moment autour de la question. Peut-on voyager dans le temps? Allez, autre réponse en musique de Gassanji, extrait du premier album de la jeune chanteuse d'origine congolaise sur RFI. Ça s'appelle Le Temps.
Je tuerai le temps, arrêterai son élan, pour être à l'heure où m'appelle le bonheur. J'enterrai dans les profondeurs pour effacer mes erreurs. Dans sa dernière demeure, j'y déposerai des fleurs.
Je dirais. Cassandji, tu le temps qui nous est compté sur RFI autour de la question « Peut-on voyager dans le temps ?» Question vertigineuse que nous explorons avec notre invité, le physicien Gabriel Chardin, et qui en soulève évidemment tant d'autres, comme celle que vous soumet tout de suite le spécialiste en robotique Bruno Bonnel.
Le temps, pour moi, est un définisseur, si je peux le dire ainsi, de temps de vie ou de temps de mort. Il permet de borner une vie. Est-ce que intellectuellement, il existe d'autres états physique dans lequel on peut s'affranchir du temps, je ne le sais pas. On sait qu'il y a par contre des choses qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres, et peut-être que le temps est finalement une matière relative. Est-ce qu'un rocher voyage dans le temps en ayant toujours été le même, et peut-être en étant toujours le même dans 1000 ans? C'est une bonne question à savoir. Peut-être qu'il y a des corps qui peuvent voyager dans le temps et d'autres qui ne pourront jamais.
C'est une bonne question que soulève Bruno Bonnel.
Très bonne question. Alors effectivement, elle permet de peut-être d'avancer un peu sur cette question de voyage dans le temps, dans la mesure où effectivement, un objet qui n'est pas vivant a une très grande durée de vie dès qu'il n'est pas radioactif, disons. Et alors en fait, en dehors du nickel, tous les objets sont radioactifs à long terme, c'est-à-dire se transforment. Mais si on regardait du nickel, certains isotopes du nickel, donc on dit en général le fer, mais le fer ou le nickel sont des objets extrêmement stables.
Qui ne bougent pas.
Alors eux, pendant des milliards et des milliards d'années, ils vont rester strictement identiques à eux-mêmes, sans essentiellement aucune modification visible.
Donc on peut dire qu'eux, ils voyagent dans
voilà,
le temps.
Voilà, ils voyagent de façon... Complètement inchangés dans le temps. Alors, sont-ils complètement éternels? La physique ne donne pas encore tout à fait de réponse. Moi, j'ai travaillé au début de ma carrière près d'une bonne dizaine d'années, disons, sur la question, sur la désintégration ultime de la matière, les éléments constitutifs, protons et neutrons de la matière. Alors, le neutron lui-même est instable, mais dans les noyaux, il est stable. Et on n'a jamais observé cette désintégration alors qu'elle était prédite, disons, dans les cas simples, dans des durées de vie qui sont énormes, 1000 milliards de milliards de milliards d'années, donc très très supérieure à la durée de vie actuelle de l'univers, qui est environ 10 milliards, 14 milliards d'années.
Donc là, on est vraiment dans l'éternité.
Dans une quasi-éternité. Mais si cette désintégration arrive, alors toute la matière va se retrouver en un mélange de matière et d'antimatière, et à terme, disparaître en radiation. Donc la matière, très probablement, n'est pas éternelle. Elle est, à l'échelle de la vie humaine, essentiellement éternelle. C'est-à-dire que des isotopes relativement instables, comme l'uranium, par exemple, l'uranium 235 versus 238, suivant l'endroit où on le regarde et la façon dont il a été modifié par son environnement, qu'il soit au Gabon, par exemple, dans un réacteur naturel, ou dans les éléments de roche qu'on trouve dans le Limousin ou en Corse, on trouve des compositions isotopiques qui indiquent l'histoire et la façon dont ça a changé par rapport au moment où ça a été produit.
C'est-à-dire
qu'il y a une évolution.
Il y a quand même une évolution, et c'est grâce à ces éléments-là que l'on peut dater, justement.
Voilà, on peut dater. Un autre élément qui est connu dans la datation et donc dans l'évolution des éléments, c'est le carbone 14, qui est produit en fait à travers les rayons cosmiques qui viennent taper sur l'azote de l'atmosphère et qui fabrique un élément relativement stable, mais relativement instable aussi, qui permet de dater, par exemple, de montrer que le sphère de Turin est un objet du XIIIe siècle et pas du tout de l'époque du Christ, par exemple.
Oui,
on arrive à prouver ça de façon extrêmement précise.
Grâce à ces éléments qui ont
une dizaine,
quelque sorte traversé
d'années.
Le temps, on
ils
peut le dire
ils ont
traversé
le temps et ils ont un âge interne. Par leur histoire.
Autour de la question « Peut-on voyager dans le temps ?», on va continuer, faire une petite pause pour le moment dans notre espace-temps sur RFI pour se retrouver dans 3 minutes juste après le flash d'info en 16 heures sombres sur RFI. Nous, on se retrouve dans le même état. À tout de suite. Autour de la question. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous, esprits libres et curieux qui nous rejoignez ici et maintenant dans un autre espace-temps que celui de la violence et de la barbarie. Pour cette deuxième partie, autour de la question « Peut-on voyager dans le temps ?», question vertigineuse, soulevée par notre invité, le physicien Gabriel Chardin, aux éditions du Pommier, dans la collection « Les grandes petites pommes du savoir ». Comment savoir ? Entre fiction et science, entre science et fiction, tout est-il possible ?
Est-ce qu'il y a des physiciens à l'heure actuelle qui s'interrogent sur notre capacité à voyager dans le temps ? Parce que pour certains physiciens, c'est une question qu'on peut poser, pour d'autres, c'est une question qui n'a pas de valeur. Est-ce qu'il y a actuellement des programmes de recherche réels qui visent à étudier la capacité de voyager dans le temps ? Et est-ce qu'il y a toujours cette volonté, si on pouvait voyager dans le temps, est-ce qu'on aurait plus d'attrait à aller vers le passé ? Ou est-ce qu'on serait tenté d'aller voir vers le futur ? Ou est-ce que actuellement, on aurait trop peur d'aller voir dans l'avenir ce qui nous attend.
Gabriel Chardin, que pouvez-vous répondre à la neuropsychologue Sylvie Chocron ? Depuis quand y a-t-il des programmes de recherche de physiciens sur cette question du voyage dans le temps ?
Alors, il y a plusieurs parties de réponse à cette question. Disons, la grande époque de réflexion sur les machines à voyager dans le temps, ou disons, ce qui est relié à aller plus vite que la vitesse de la lumière, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure.
Oui, c'est ça, il faut aller plus vite que la vitesse de la lumière pour voyager dans le temps.
Ça a été posé, comme j'ai indiqué, en tout cas, un grand démarrage de la question, redémarrage de la question, c'était en 1988 par le physicien Kip Thorne. Il y a eu un article dans la revue, une très bonne revue Physical Review Letters, donc une revue scientifique très sérieuse, qui a posé la question en exhibant d'une certaine façon certaines solutions de la théorie d'Einstein lui-même, qui sont des sortes de portes dans l'espace-temps.
Il y a des portes dans l'espace-temps d'Einstein.
Pour ceux qui ont lu le livre Hyperion de Dan Simmons, c'est les gens riches se payent des portes qui permettent d'aller sur la Lune, sur Mars, un peu partout, et d'avoir accès à des lieux fantastiques par une porte de son salon, ou des portes multiples qui permettent d'accéder instantanément.
C'est pas que de la science-fiction.
Ce n'est pas que de la science-fiction dans le sens que dès que l'on décrit une géométrie dans l'espace-temps, la relativité d'Einstein donne une réponse sur la configuration d'énergie et de le temps sur impulsion énergie qui est du jargon scientifique pour arriver à réaliser cette porte. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut arriver à faire une matière qu'on appelle exotique, c'est-à-dire qui est soit d'énergie, soit de pression négative.
Pour arriver
à faire ces portes dans l'espace-temps ou ces machines à voyager dans le temps. Alors, pendant très longtemps, et ça a été un peu la réponse jusqu'au début des années 90, la réponse a été, eh bien, c'est impossible, circuler, il n'y a rien à voir, et c'est pourquoi... cette chose qui clairement ne se passe pas, aller voir Louis XVI ou Cléopâtre, ne se passe pas dans la nature. Or, en fait, en 1998, l'immense surprise, c'était de voir que l'univers violait au moins une des conditions que l'on pensait...
Inenvisageable.
Oui, qui était la pression négative et l'énergie noire. La gravité ne devient pas seulement... n'est pas toujours attractive. L'expansion de l'univers s'accélère au lieu de se ralentir sous l'effet du poids de l'univers. Hein, quand on lance une pomme, elle retombe sur le sol, elle part pas dans l'espace accéléré. Ce qui serait peut-être commode pour le voyage spatial, mais qui nous embêterait beaucoup si on devait rester sur Terre. Parce qu'on serait en permanence en train d'essayer d'éviter d'aller dans
l'espace. Oui.
Donc, cette première violation, disons, du principe qu'on pensait de respect de la positivité de l'énergie et de la pression...
Le fait qu'il y ait d'autres matières...
Il y a de toute façon de la matière exotique qui a l'air d'être présente, peut-être
c'est
pas
c'est
de la matière, ça pourrait... Alors, ça, c'était une hypothèse que j'ai faite il y a quelques années, qui n'est pas du tout reconnue pour la manche. Est-ce que les gens ont bien compris mes arguments? Est-ce qu'ils ont bien lu les articles que j'ai écrits avec un étudiant, Aurélien Benoît Lévy? Ça, c'est peut-être moins clair. Et peut-être que dans le futur, les gens reviendront un peu plus sur cette hypothèse. Mm-hmm. Pour le moment, ce n'est pas du tout l'hypothèse majoritaire. L'hypothèse majoritaire, c'est de supposer qu'il existe une sorte de fluide, d'énergie du vide, qui est exotique.
Et qui est exotique, c'est-à-dire aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et qui a des propriétés totalement différentes de notre matière.
Des propriétés proches de celles qu'il faut pour faire une porte dans l'espace-temps, mais à échelle tellement grande que quelque part, il faut aller au bout de l'univers pour revenir en arrière.
Donc encore une fois, ça serait peut-être possible, mais alors du coup, est-ce qu'on n'arrive pas à certains paradoxes, notamment un qui est soulevé par un de nos internautes auditeurs du Gabon, Jean-Baptiste Guerté Katukounou, qui cite même Stephen Hawking, et qui nous parle du paradoxe du grand-père. Si je retournais dans le passé pour tuer mon grand-père, mais que j'arrive à le tuer, ben, je pourrais pas être là, enfin voilà. Qu'est-ce que vous en faites de ce paradoxe-là, au cas où cette matière exotique existerait et nous permettrait des portes dans le temps?
Alors, c'est un paradoxe qu'on trouve effectivement dans beaucoup de livres de science-fiction, et d'ailleurs parfois brillamment traité. Certains, en contournant les paradoxes, c'est-à-dire en trouvant des façons que les objets se rencontrent eux-mêmes et puis respectent la cohérence des histoires, quelquefois avec des vrais paradoxes, c'est-à-dire donc des histoires qui se multiplient ou qui ont des incohérences. La physique répond de façon assez claire, et après ce travail qui a été fait à la fin des années 80, au début des années 90, en disant qu'il n'y a pas de paradoxe.
Il n'y a pas de paradoxe.
Il n'y a pas de paradoxe du grand-père. Ce paradoxe est apparent, et quand on analyse, il y a une sorte de chaos ou de multiplicité des histoires qui apparaissent. Un peu comme la mécanique quantique, et le même physicien dont je parlais tout à l'heure, Kip Thorne, a conjecturé, parce qu'il annonce une démonstration dans un de ses articles, et il la donne jamais, à ma connaissance, que quelque part, l'indéterminisme, le non-déterminisme de la mécanique quantique pourrait trouver son explication dans ces allers-retours dans l'espace-temps qui pourraient être là au niveau microscopique.
C'est qu'au niveau microscopique, il y aurait quoi? Plusieurs possibilités, plusieurs passés possibles, plusieurs présents possibles, on peut aller jusque-là?
Deux physiciens, si on revient un petit peu en arrière, dans la fin des années 40 et les débuts des années 50, en particulier le prix Nobel à Richard Feynman, et puis son mentor qui avait que quelques années de plus que lui, John Wheeler, aux États-Unis, à Princeton à l'époque, ont considéré, et c'est exact dans certaines théories, dans l'électromagnétisme qui nous est courant, hein, l'électricité et le magnétisme, l'antimatière est vraiment de la matière qui remonte le temps. Un positron, c'est vraiment un électron pour eux qui remonte le temps. Et donc, dans leur vision, la nature essaye tout et n'a pas le droit de remonter en arrière dans le temps trop longtemps. C'est-à-dire, elle peut faire plein de petits essais.
Elle peut faire des essais en arrière, en avant et en arrière.
En avant, en arrière, dans tous les sens, y compris d'ailleurs plus vite que la vitesse de la lumière, mais en respectant ce que l'on appelle un peu improprement le principe d'incertitude, qui fait que si on essaie de violer la nature, on a le droit de le faire, mais pendant un temps extrêmement bref, ou pour d'autant, plus le coût est élevé, plus il faut aller vite pour tromper un peu l'univers, et on doit le faire dans un espace extrêmement
donc c'est
confiné.
Compliqué de remonter le temps en arrière parce qu'on peut pas tromper longtemps la nature.
Et nous, on est gros et on n'arrive pas à le faire pour des objets comme un être humain.
Bon, pas de paradoxe du grand-père, tant pis pour la science-fiction. Autour de la question, peut-on voyager dans le temps? Je propose de rester quand même dans la science-fiction avec un extrait de la bande originale du film Interstellar dont vous avez commencé à nous parler en première partie. Donc c'est un voyage interstellaire, hein, dans l'espace et dans le temps. Je propose un extrait de cette bande-annonce suivi d'une question qui ne sera pas elle du cinéma, mais qui sera celle de l'astrophysicien Francis Rocard, responsable au CEA du programme d'exploration du système solaire et notamment de la sonde Rosetta. Mais avant lui, détour passage par la fiction.
Phase d'allumage moteur principal H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider.
9.
Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps?
8.
Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance.
7.
Murphy, il faut que tu me parles.
6.
Il faut qu'on règle ça avant que je parte.
Tu sais même pas quand tu reviendras.
5. Allumage moteur principal.
Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde.
Non.
4.
Quand tu deviens parent,
3.
Il y a une chose qui te paraît très claire.
2.
Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité.
1.
Je reviendrai.
Même si Interstellar a probablement un peu triché sur certaines choses, pas forcément sur la physique, mais en mettant un trou de ver au niveau de Saturne, là je pense qu'il a bien triché. Bon, on sait que voyager dans le temps, c'est pas possible. Par contre, le temps s'écoule plus ou moins vite suivant la vitesse à laquelle vous allez. C'est le paradoxe des jumeaux. Un jumeau qui va voyager va revenir et son jumeau va être beaucoup plus jeune, celui qui est resté sur Terre. Après, il y a une chose qui, moi, m'a toujours intrigué et qui pourrait nous expliquer. On dit que au bord d'un trou noir, l'espace et le temps s'inversent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'interprète ça par on ne peut pas revenir dans l'espace, mais on peut revenir dans le temps. Qui nous explique ?
Gabriel Chardin, pouvez-vous expliquer à Francis Rocard, responsable au CNES du programme d'exploration du système solaire, s'il ne se trompe pas, on pourrait revenir non pas dans l'espace, mais peut-être dans le temps, au bord d'un trou noir ?
Alors c'est l'hypothèse qu'explore le film Interstellar, qui a été conseillé scientifiquement par le fameux Kip Thorne, donc qui est un physicien assez âgé aujourd'hui, mais qui, avec une équipe et les simulations de rayons lumineux, d'images que l'on verrait, autant le scénario lui-même est très invraisemblable, autant les simulations d'apparence de, par exemple, Saturne, qui serait au voisinage du trou noir, sont extrêmement réalistes et sont très bien faites.
Alors, trou noir et trou de ver, c'est pareil ?
Non, effectivement, il faudrait là parler du fait qu'il en ressort de trou de ver.
C'est-à-dire trou de ver comme un ver de terre. Hein.
Voilà, comme un ver de terre, un petit passage... un passage direct entre ici et la Lune, c'est une porte, quoi. Déjà, un petit trou de ver qui fait que vous explorez avec une géométrie alternative qui vous permet d'aller presque infiniment vite, à la limite, si la porte a une épaisseur nulle.
Donc, il change complètement l'espace-temps, en fait, ce trou de ver.
Qui change ce qu'on appelle la topologie, la relation entre les lieux dans l'espace-temps et qui permet d'avoir des chemins rapides et d'un chemin lent. Les chemins qui sont tout droits sont en fait des chemins lents et il pourrait y avoir des chemins plus rapides. Alors, effectivement, la question de savoir si on peut... Tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait que déjà, aller à 45 degrés, c'est-à-dire sans même aller à l'horizontale dans l'espace-temps, on commence à intervertir espace et temps, c'est déjà aller à la vitesse de la lumière. Passer le mur de la vitesse de la lumière pour des raisons énergétiques, ça marche pas.
Pour le moment,
par contre,
possible.
Si on, en tout cas, dans un espace-temps plat, celui où il n'y a pas la gravité, dans le cas où il y a la gravité, tous les gens vous auraient dit jusqu'à la fin des années 90 que c'était impossible de revenir en arrière dans le temps. Là, au niveau macroscopique, on n'y croit pas. Je dirais, faire le Interstellar, aller se rencontrer soi-même, voir soi-même et sa fille dans le passé, réinteragir avec eux pour leur redonner des informations dans le passé, ça, on pense que c'est impossible. Mais disons, au niveau microscopique...
Donc pas à notre échelle d'être humain, mais au niveau...
La déformation de l'espace-temps...
Dans l'infiniment petit.
Dans l'infiniment petit, ça relance... la réflexion sur ce qu'est un retour en arrière dans le temps et le lien entre gravité et antimatière.
C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, c'est possible. L'infiniment petit peut voyager dans le temps, il peut retourner dans le temps, il peut échanger des informations dans un
alors,
autre
échanger des informations...
espace-temps. C'est possible, ça ?
Non, c'est-à-dire que transporter de l'information cohérente comme un livre ou comme un être humain qui a une structure, ça c'est très probablement impossible. Par contre, garder un lien et se sentir relié aux objets à travers un substrat commun, ça c'est probablement possible. Et il y a probablement aussi une espèce d'instabilité qui est liée au caractère de la instable de la gravité. Et ça, c'est une question qui reste à étudier, ce lien entre la physique des particules et cette matière qui remonte le temps, et la façon qui est proposée par la gravité de remonter le temps au prix d'une instabilité.
Ce qui veut dire qu'une machine à remonter le temps, donc pas pour nous, on l'a bien compris, mais pour l'infiniment petit, est envisageable ou est en recherche ?
Elle est très probablement... réalisée à chaque fois qu'on voit une particule d'antimatière, quelque part. C'est-à-dire que quand on fabrique de l'antimatière, on fait des choses qui sont nécessairement très violentes, parce qu'on ne sait pas fabriquer pour le moment de façon cohérente, disons, contrôler l'antimatière. Ça pourrait être le cas dans, disons, une dizaine d'années, avec des lasers extrêmement puissants qui arriveraient à polariser le vide, c'est-à-dire à extraire son contenu de matière et d'antimatière et à arriver à faire une production relativement douce de matière et d'antimatière. Ça n'est pas du tout le cas pour le moment. Pour le moment, on fait des choses très violentes.
Autour de la question, peut-on voyager dans le temps? On va pas partir dans la violence, on va plutôt se laisser embarquer dans le vaisseau musical d'un de vos musiciens préférés, Philip Glass, sur RFI, extrait de Opening. Sur RFI, qui traverse le temps autour de la question « Peut-on voyager dans le temps ?» Question sur laquelle planchent les physiciens comme vous, Gabriel Chardin, mais pas seulement, d'autres chercheurs comme le neuropsychologue Francis Eustache, éminent spécialiste de la mémoire, qui était lundi notre invité, apporte lui aussi des réponses plutôt inattendues.
Le cerveau, c'est un grand voyageur. C'est le voyage dans le temps, évidemment, vers le passé. Quand on pense à la mémoire, on pense dans un premier temps au passé. Mais c'est peut-être une erreur, La grande mission de la mémoire, c'est de se projeter dans le futur. Je suis vers le futur, je suis orienté vers le futur, et pour comprendre ce futur, je vais aller chercher, je vais aller voyager dans mon passé, et puis je vais voyager aussi vers l'autre. Je vais partager avec l'autre qui me regarde, qui me pose des questions, et je vais essayer de voir si ce voyage correspond au voyage de l'autre. Et je vais essayer de mettre en synergie ces différents voyages, vers le passé, vers le futur et vers l'autre. Donc le cerveau, c'est vraiment le voyage.
Notre cerveau, au fond, il voyage constamment dans le temps, Gabriel Chardin.
Alors, comme objet matériel relativement stable, il voyage comme tout objet dans le temps, dans l'espace-temps.
Là, c'est le physicien qui répond.
Voilà.
Oui.
Après, cette question pose une... attire l'attention sur un nouvel aspect extrêmement intéressant de la question, qui est vraiment la façon dont on reformule aujourd'hui la question du voyage dans le temps, c'est-à-dire du point de vue de l'information. Et ça paraissait complètement une autre question, quelque chose de séparé comme question.
Et oui, autrefois, c'était la question des objets. Enfin, comment un objet peut-il voyager dans le temps?
On parlait de machine à la Wells, à remonter le temps, mais sans imaginer un lien avec l'information. On voyait bien qu'il y avait un problème à transporter un livre dans le passé qui donnerait les résultats du tiercé ou de je sais pas quoi, enfin n'importe quel jeu qui permettrait de gagner l'argent, et disant ça s'arrêtait là. Or aujourd'hui, et là il y a réellement un travail de recherche, il y a à la fois la notion de téléportation, c'est-à-dire
téléportation
quantique, donc d'un objet dans toute sa structure et dans toutes ses corrélations, dans son état exact. C'est ça, la téléportation quantique. On ne transporte pas l'objet lui-même, on transporte sa description.
Et ces informations.
Voilà, ces informations. On va analyser l'objet et on va transporter l'information qui le décrit à la fois de façon classique sur un canal et quantique sur un autre. Et on va reconstruire l'objet. Il faut avoir les atomes à côté pour reconstruire l'objet, mais il n'a pas été, seule l'information a été transportée entre les deux, entre ici et la Lune, par exemple. Hein. Donc là, tout se passe à la vitesse de la lumière, hein, donc il n'y a pas de contradiction et de retour en arrière dans le temps.
Ça, c'est pas de la science-fiction.
Ça, c'est pas de la science-fiction. Ça se fait sur des systèmes d'une simplicité redoutable, un photon ou un atome, et on ne sait pas le faire du tout sur un être humain qui est un objet d'une complexité redoutable. Par contre, sur le principe, on sait assez bien analyser aujourd'hui, voire commencer à imaginer le respect de la cohérence de l'objet, de son analyse et de sa description sur des temps qui sont relativement longs, qui peuvent atteindre des millisecondes, voire des secondes. Et
donc, sur des secondes, on peut transporter toutes les informations d'un tout petit objet très loin, ailleurs.
Et on commence à voir, par exemple, aussi des communications complètement sécurisées ou qui sont impossibles à espionner parce qu'on contrôle complètement l'information de transport sur des distances assez grandes. Donc cette réflexion qui décale la question qui l'a fait passer du point de vue de l'information, elle est extrêmement importante parce que pour provoquer un petit peu, faire réfléchir les gens, je peux dire que vous voyez, quand dans un univers infini, le voyage dans le temps est obligatoire. C'est pas qu'il est interdit, c'est qu'il est obligatoire. Pourquoi ? Parce que n'importe quel objet, quelle que soit sa complexité, va se retrouver un nombre infini d'objets, et en particulier votre cerveau. L'orateur là d'il y a quelques instants, Monsieur Eustache, parlait de la question du cerveau. Ben, dans un univers infini, il est obligé que y ait un nombre infini de votre cerveau qui découvre l'univers et qui ait l'impression forcément, ici on continue à parler et puis tout votre cerveau garde le même environnement.
Il y a une infinité de nos cerveaux, le vôtre, Gabriel Chardin et le mien, et
la plupart
nos auditeurs
d'entre eux vont mourir tout de suite parce que certains vont évoluer dans des univers et avoir l'impression de sortir de rêve, etc. Il va y avoir une multiplicité d'histoires, mais un univers infini possède nécessairement un nombre infini d'objets qui redémarre de l'objet, de l'état quelconque que vous avez pu choisir. Et donc, en quelque sorte, ça décale donc la question vers la notion d'information, parce que quand vous voulez parler du transport d'une particule et de son voyage dans le temps, c'est évident pour le physicien, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que toutes les particules sont identiques quand on les regarde individuellement. Donc elle voyage par définition soit dans un sens pour les particules, soit dans le sens opposé pour les antiparticules, et puis c'est les deux seules choses que vous pouvez faire. Et puis dans les objets un peu plus complexes, évidemment une mouche, vous n'avez pas la retrouver avant des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière, même une mouche, et encore moins un être humain, mais par contre dans un univers réellement infini, vous allez les retrouver, et même en un nombre infini de fois.
Mais c'est encore plus, si j'ose dire, perturbant ce que vous dites là, Gabriel Chardin. C'est-à-dire que y a à la fois des univers multiples, enfin une infinité de nous-mêmes, de possibilités.
Ou alors il y a des règles de sélection que l'on ne comprend pas aujourd'hui qui font que certaines voies sont éliminées. Mais disons, au jour d'aujourd'hui, si on accepte, et pour le physicien, il considère, le physicien standard, Si vous faites un sondage dans les physiciens cosmologistes aujourd'hui, ou disons même les physiciens en général, ils vont vous dire à 99% de chance, oui, l'univers est infini. Et ben, si vous acceptez le principe d'un univers infini, vous avez aussi
une infinité, de
n'importe quel objet,
de n'importe quoi, finalement.
Ce livre, ce micro, vous-même.
Et nos auditeurs à l'infini.
Voilà. Et ils se retrouvent à chaque fois dans des environnements extrêmement différents, à chaque fois, très rapidement. Mais ils ont l'impression instantanément d'avoir été là, et pof, quelque chose évolue ensuite différemment.
Et dans votre vie quotidienne, ça change quelque chose de savoir ça? Parce que là, ça me perturbe un peu, hein, moi.
C'est assez perturbant, et ça pose la question, effectivement, du choix. On peut revenir aussi à la notion de sens de la vie, évidemment. Hein, quand on voit tous ces essais dont plein sont ratés, certains sont réussis.
Voilà. Bon ben, on a le choix en tout cas. Hein. Merci infiniment Gabriel Chardin d'être venu en direct sur notre antenne pour nous entraîner dans d'autres espaces-temps. On avait vraiment besoin aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc paru aux éditions du Pommier, Une grande petite pomme du savoir. Peut-on voyager dans le temps? Point d'interrogation. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, autour de la question « À qui profite la science ?» Tiens donc, nous nous intéresserons avec la sociologue Annie Thébaud-Monnier aux intérêts privés et industriels auxquels la science est parfois, souvent, asservie. Nous nous demanderons comment faire autrement, comment entendre les lanceurs d'alerte et comment adopter surtout de nouvelles synergies entre savoir scientifique et savoir citoyen. Rendez-vous demain pour en savoir plus avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien en ces heures sombres pour tous les esprits libres, ouverts et curieux que nous sommes. Amis auditeurs, dans quelques instants, les informations sur RFI.